Bonsoir et bienvenue dans la séance du dimanche. À l'occasion des 25 ans de Radio Campus Paris, nous vous proposons une émission spéciale qui nous replonge en 1998. Une année dont, il faut l'avouer, nous avons très peu de souvenirs, mais qui a vu la naissance d'un grand homme, Victor Benham.
C'est moi.
1998, c'est une année de cinéma qui nous semble déjà assez lointaine, tant le secteur a évolué depuis. Donc nous allons en une heure revenir sur les grandes tendances, certains films qui nous ont marqués il y a de cela 25 ans. Évidemment, nous les avons vus depuis, car nous avons nous-mêmes 25 ans. Montez dans notre Peugeot 106, réglez l'autoradio sur la fréquence 93.9 FM. Nous vous emmenons 25 ans en arrière.
Coming to you now from the largest studio ever constructed, it's the Truman Show!
Ça va? On se prend pour Schumacher?
Louis? Louis? Is it this aisle or is it the next one up? You sure?
Yeah, I'm sure.
You're positive?
Yes.
Don't seem sure to me.
Hey, don't seem.
Hey!
What's that, Wiggins?
I got a bet. I come in this game right now. Same score, but we play black guys against the white guys.
Et c'est donc notre Didier Deschamps à nous qui va nous présenter l'année 1998.
Oui, l'année 1988, effectivement.
98.
J'ai dit quoi?
88, Louis.
Oui. Un ou deux ans après la naissance des meilleurs animateurs radio, j'ai envie de dire. 98, effectivement, on est champion du monde, hein, il ne faut pas l'oublier. Et le petit Louis ne s'en souvient pas, mais il était sur les Champs-Élysées avec son papa et son papy pour suivre l'arrivée du bus impérial des Bleus. Il était trop petit aussi pour s'en souvenir et être allé au cinéma, mais 98, c'est effectivement également une année de cinéma. Une année, moi, en me replongeant un peu dans la liste des films de cette année-là, que je qualifierais un petit peu de moyenne, avec un cinéma américain qui est globalement pas flamboyant, à l'exception de quelques films dont on parlera, un cinéma français plutôt décevant et en perte de vitesse, je trouve, mais quelques belles poches de résistance aux quatre coins du monde, comme au Japon, avec Perfect Blue, qu'on aime beaucoup ici et dont on a déjà parlé. Alors, on va aller de l'autre côté de l'océan pour... Aller voir ce qu'il se passe du côté de nos amis américains. Et 1998, si on triche un petit peu parce que c'est sorti en France en 98, il y a le film Titanic.
Du coup, plutôt, au lieu de traverser l'océan, on peut aller au fond de l'océan.
Wow, wow, je ne l'aurais pas tenté.
De l'océan.
Too soon. Ça fait que 25 ans. Non, un peu plus, puisque c'était en 1912 pour le naufrage du Titanic. Mmh. Et justement, le siècle touche à sa fin en 98 et boucle la boucle en produisant, je dirais, le tirage positif de ce négatif originel, un désastre planétaire et transformé par le cinéma hollywoodien en succès tout aussi planétaire, puisque cela fait 600 millions de dollars de recettes aux États-Unis et plus de 20 millions de spectateurs en France et idem partout dans le monde. Alors, au-delà de ce succès écrasant du film de Cameron, le cinéma américain a continué d'exister, hein, et s'il continue de dominer outrageusement, et voilà, ça ne s'est pas essoufflé encore aujourd'hui, le cinéma mondial, son bilan esthétique est pour moi pas très flamboyant. Vous me direz ce que vous en pensez. Pour moi, il y a deux tendances qui ont dominé en 98 aux États-Unis, les blockbusters gonflés aux stéroïdes type Armageddon, type L'Arme Fatale 4, et les films qui traitent de sujets plus marginaux, on va dire, mais qui sont un peu à bout de souffle, esthétiquement. Dans ce paysage, pour moi, il émerge que quelques cas isolés. Déjà, on a Woody Allen de rigueur, avec Harry dans tous ses états. On a un nouvel opus des frères Cohen, The Big Lebowski. On a trois grosses productions de studio qui sont plutôt, je trouve, élégantes, intelligentes et critiques. Quand on décèle leur message, c'est Starship Troopers de Verhoeven, on a Small Soldiers de Joe Dante, et on a Snake Eyes de De Palma, que tu aimes beaucoup aussi, Nico, je le sais. Et enfin, il y a toujours les films des grands maîtres. On a un Tarantino avec Jackie Brown, on a un Eastwood cette année-là, et on a un Spielberg avec Il faut sauver le soldat Ryan. Et enfin, un autre film qui a marqué l'année 98 aux États-Unis, c'est American History X, donc l'histoire d'un néo-nazi repenti, et un film qui témoigne des tensions raciales qui sont encore en cours dans les États-Unis de ces années-là. Et je crois que c'est le film, Johanna, que oui. tu as décidé voilà, de mettre en avant dans cette année 98.
Exactement, et donc un film qui traite, donc comme tu l'as déjà un peu expliqué, si je peux revenir sur le synopsis du film. Donc c'est, on suit en fait le parcours d'un néo-nazi, Derek, qui est assez jeune, donc ça se passe dans l'Amérique, en Californie, dans les années 90. Donc un néo-nazi qui, après un séjour en prison, qui termine en prison parce qu'il a tué un noir africain.
Noir américain
plutôt. Délibérément, évidemment. Et donc, il termine en prison. Et lorsqu'il sort de prison, il décide de se repentir et de complètement laisser derrière lui son passé de néo-nazi. On parle quand même d'un bon gros néo-nazi qui a une croix gammée tatouée sur le torse. Et surtout, qui essaye en fait de... Parce que donc, Derek a un jeune frère, Danny, qui suit un peu de trop près, on va dire, les traces de son grand frère et qui, lui aussi, commence à aller, même est complètement intégré dans cette mouvance néo-nazie. En fait, on comprend qu'il y a tout un groupe qui est quand même assez important dans cette Amérique fin des années 90. Et donc, il va essayer de faire sortir son frère de cette mouvance et surtout de lui faire un peu sortir de la tête cette idée du blanc suprémaciste, etc. C'est un film de Tony Kaye, donc c'était son premier film, premier long métrage. Avant ça, il a fait des films publicitaires pendant une décennie avant. Et c'est un film qui a été assez bien accueilli par la critique lorsqu'il est sorti en 98. Le personnage principal de Derek est campé par Edward Norton, qui joue parfaitement bien son rôle. Je crois qu'il a eu pas mal de nominations d'ailleurs pour ce film.
Il n'a pas eu l'Oscar ouais. parce que c'était La vie est belle qui était
nominée. Oui, exactement, mais il a été nominé, mais en effet, il n'a pas eu l'Oscar. Et c'est un film, je me rappelle, que j'avais vu assez jeune et qui m'avait franchement marqué. Alors, je ne me rappelais plus trop les détails, etc., mais je me souviens que c'était un film qui m'avait vraiment marqué. C'est un film assez violent. Franchement violent.
Je me rappelle, vraiment, une des scènes dont je me rappelle, c'est la mise à mort au début sur le trottoir.
Ouais.
Oui, horrible.
Oui, oui. C'est une des films. Si, celle de la douche aussi. Tu t'en rappelles ou pas?
Ah, ça me.
Quand il est en prison et qu'il se fait violer dans la douche.
Oui, bah oui, d'accord. Voilà. Ouais, non, mais la scène sur le trottoir, la mâchoire contre le trottoir.
Oui, en fait, donc justement, il termine en prison parce qu'il il assassine. Ce noir américain qui essayait de lui voler sa voiture, mais qui ne méritait peut-être pas non plus quand même de se faire tuer. Et en fait, il y a cette scène horrible qui est peut-être la plus percutante du film où pour le tuer, il lui demande il est allongé par terre et il lui demande d'ouvrir la mâchoire et de mettre dans sa bouche un peu le trottoir et il vient lui appuyer la tête. Enfin bref, c'est une scène vraiment horrible. Mais donc voilà, moi c'est un film que j'ai revu là pour préparer l'émission et j'ai toujours... Il a beaucoup de défauts, mais je trouve qu'il est franchement percutant, qu'il réalise bien, enfin qu'il met bien en scène ce qu'il veut montrer. Donc c'est un peu une sorte aussi de tableau sur justement cette Amérique de la fin des années 90, qui est quand même, et c'est encore le cas aujourd'hui, mais en prise à des conflits raciaux très importants. Et donc qui dépeint ça avec ce personnage principal, donc Derek, donc lui qui est, on part d'un point de vue extrême en fait, mais pour expliquer, je trouve que ce que fait bien le film, c'est qu'au-delà de montrer juste le personnage d'un néo-nazi pète et méchant, on explique comment il en est arrivé à devenir néo-nazi. Et en fait, on comprend que c'est tout simplement une histoire de haine. Et en fait, à un moment, il faut trouver des coupables parce que son père, qui est pompier, il a été tué. La personne qui l'a tué, en l'occurrence, était dans des quartiers un peu sombres. Cette personne avait tout simplement la peau de couleur noire et que c'est facile d'accuser. Et en fait, quand on a la haine, de dire c'est de la faute de eux, c'est de la faute des minorités, c'est de la faute de l'un, et il devient néo-nazi comme ça. Et donc, le film l'explique et surtout, c'est intéressant de... Le plus important, c'est pas les néo-nazis en eux-mêmes, le groupuscule, etc. C'est juste comment il en est arrivé à être complètement possédé en fait par la haine Et ensuite, de se dire non, en fait, c'était pas la solution, de se repentir, et aussi d'essayer d'entraîner son frère, son petit frère, là-dedans. Voilà. Donc c'est un film qui est assez fort et qui est assez percutant. Et non, je pense que c'est quand même un film qu'il faut avoir vu.
Oui, c'est un film que j'avais vu il y a quelques années maintenant, je pense presque 10 ans. Et oui, c'est un film assez marquant, comme tu l'as dit, qui est assez percutant. Je trouve que c'est à la fois sa qualité, son défaut, qu'il est assez didactique en fait dans ce qu'il raconte, les bons, les méchants. Je rappelle l'amitié qu'il crée avec une autre personne noire en prison, etc.
Oui, c'est ça,
etc.
qui fait un peu sortir et changer d'avis.
C'est ça. Donc je trouve, le défaut que je dirais, c'est qu'il y a quand même des grosses ficelles de films américains. C'est des films qu'on peut montrer en classe, un peu en assant la vague en France sur le nazisme et les expériences sociales, etc. Donc je trouve que c'est ça qui m'avait un peu gêné à l'époque, c'est ce côté...
Un peu trop américain, limite.
C'est ça, trop américain, en fait. Ouais. C'est très, très... On sent que c'est un film qui veut choquer, éduquer, penser les gens, disent « Ah ouais, c'est quand même pas bien le racisme, etc. » Mais oui, ça n'en demeure pas moins un film assez important et percutant dans ce que ça raconte. Et même cette photographie en noir et blanc est assez intéressante.
Il y a plusieurs scènes qui sont en noir et blanc.
Pour moi, tu vois, dans mes souvenirs, c'était entièrement en noir et blanc.
Non, c'est pas entièrement en noir et blanc, justement. En fait, c'est quand on revient en arrière, un peu les flashbacks, c'est en noir et blanc. Donc pas toutes les scènes sont en noir et blanc.
C'est marrant parce que vraiment le souvenir que j'en ai, c'est un film entièrement en noir et blanc avec des fois des touches de couleur. Toi, Devine, c'est un film que tu as vu?
Alors en fait, c'est intéressant, mais c'est pas du tout un film que j'ai eu l'occasion de voir dans ma vie. Alors que pour autant, quand t'as proposé ce film pour Johanna pour 1998, j'ai trouvé ça très pertinent à plusieurs égards. Notamment parce que pour moi, c'est un film qui justement incarne bien cette période-là. Une période d'entre-deux où on peut se permettre de la véritable violence au cinéma tout en ayant des messages politiques. Et par ailleurs, je trouve que Edward Norton, c'est un acteur qui a eu une vraie carrière dans les années 90, qui est assez impressionnante et assez dissociée à celle qu'il a maintenant. Je trouve qu'en 25
dans
ans...
Dans Glass Onion, par exemple.
Par exemple. Et qu'en 25 ans de carrière, c'est un acteur qui finalement... a su se réinventer étrangement, notamment, je pense, et on pourra en parler aussi pour l'année 98, parce que le réalisateur a réalisé un film cette année-là, mais dans le cinéma de Wes Anderson, il a beaucoup participé, et il en a participé à des rôles à contre-emploi de ce qu'on a pu trouver dans American History X, et notamment dans Fight Club, qui pour moi a été longtemps un film vraiment d'anthologie, et un film où Edward Norton a pas sensiblement le même personnage, mais sensiblement le même trait de caractère, qui est l'extrême violence du capitalisme et de la vie en société, dans des villes qui sont... je trouve que dans ces années-là, on va dire bien 5 années autour de la fin des années 90 et début des années 2000, on va avoir des films d'une extrême violence. Et en fait, c'est fou d'imaginer, en regardant Glass Onion, que Edward Norton il a été capable de réaliser une telle qualité de jeu sur cette violence. Quand on regarde un film comme Glass Onion maintenant... On trouve que, enfin moi personnellement, j'ai trouvé que son jeu était vraiment à chier et que par ailleurs, il n'y avait aucune notion psychologique. Ce qui est pour le peu que j'ai regardé, je vais être honnête, j'ai voulu regarder American History X hier soir et il était un peu tard et je me suis endormie bêtement. Donc je ne pourrais pas être dithyrambique sur ce film, même si j'aimerais beaucoup le regarder. Donc c'est pour ça que j'ai vite arrêté parce que je me suis dit que c'était dommage de le regarder à moitié somnolente. Mais je trouve que voilà, c'est un acteur qui me pose beaucoup de questions et qui me surprend parce que pour le choix du physique, tout simplement, quand on regarde les topics de l'époque, Edward Norton, il n'est pas censé... il est chétif.
Ça ne se voit pas dans le film, justement, dans American History. Il a pris du muscle. Justement, on a l'impression qu'il a un physique assez imposant. Et non, le caractère qu'il incarne est assez fort et je trouve qu'il le fait merveilleusement bien. Et par rapport à ce que tu disais, Nicolas, juste, je trouve quand même que tu disais que t'as pas aimé ce côté un peu américain, les gentils, les méchants, la morale. Mais je trouve que le film, il est quand même pas trop moralisateur. Il vient plus expliquer et dire, voilà, ce mec, il a perdu son père, c'est un ado triste. Alors, je dis pas que ça excuse, mais tu vois, il y a plus ce côté, juste, il était pas content et il a voulu trouver des coupables. Et peut-être qu'il était mal entouré et bim, il a fini néo-nazi. Et en fait, il a juste fallu qu'il aille en prison et qu'il devienne pote avec un black pour se rendre compte que ses idées, c'était de la merde. Et tu vois, et limite, ça désacralise le truc du... En fait, enfin, tu vois, tu peux changer d'avis, et en fait, surtout, c'est des mauvaises raisons qui font qu'on en arrive à de telles pensées, en fait, dans l'Amérique, tu vois, de penser qu'il y a une suprématie des races, etc. Et en fait, bah, le film, il dit juste, bah, tes raisons, elles sont nulles, quoi.
Mais justement, alors j'ai essayé un peu de me renseigner sur le film avant de regarder, donc il finit par une citation de Franklin Roosevelt. Dans mes souvenirs, apparemment, enfin, dans mes souvenirs des recherches que j'avais faites, qui était justement sur l'amitié et sur le fait qu'on pouvait choisir ses ennemis pour une cause, mais que finalement la cause, elle valait jamais le fait qu'il était plus valable d'être ami, en fait, et en tout cas de se lier sur des choses. Et j'ai trouvé que c'était assez intéressant, en tout cas en regardant le synopsis détaillé et finalement. Tout comme ce que tu viens de raconter en prélude, quand on raconte le film, et peut-être que Louis pourra en parler justement plus sur le rapport de comment on raconte le film à quelqu'un qui ne l'a pas vu. Moi, typiquement, on m'a fait le mime de la scène du trottoir.
Ouais.
On m'a dit, à la fin, il se passe ça. Enfin, vraiment, on m'a détruit toute l'histoire du film, mais vraiment en analysant vraiment la violence. Genre vraiment tout ce qui était censé, et on en a brièvement parlé avec Louis, mais c'est vrai que nous deux, on était assez réticents à l'idée de le regarder, notamment par ça, par l'histoire que les gens nous en racontent.
Ouais, c'est ça, moi par la violence pour ma part, parce que je trouve que la violence est souvent très visuelle, donc très cinématographique, et moi j'ai pas trop de mal avec ça, et là justement cette scène... Bon, du coup, je vois que tu fais une tête qui me...
Ah ouais, non, vraiment, c'est horrible.
Même moi, je trouve horrible.
Mais c'est moins ça que... Plus ou moins l'histoire qui, en effet, me paraît un peu moralisatrice. Après, là, tu t'en es défendu, etc. Mais malgré tout, j'ai peur de tomber un peu dans le cliché d'essayer d'expliquer, pas de justifier, mais même d'expliquer, mais de façon très facile, comment on peut en arriver là, comment on en sort. Et moi, c'est des critiques du film que j'ai entendues, de la part même d'amis qui l'ont vu, et du coup, ça m'a jamais vraiment chauffé de le voir. Mais vu comme t'en parles aussi, t'es la première, du coup, que je rencontre et qui m'en dit du bien, donc ça me donne aussi envie de le voir, et comme ça je me ferai mon propre avis.
Exactement.
Pour la question de la violence, 98, c'était aussi l'année de sortie de Funny Games de Michael Haneke. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais là pour le coup c'est
la version originale,
c'est
un...
la version originale. Là c'est un peu l'envers, parce que c'est un film autrichien qui parle de violence, mais qui par contre n'essaie pas du tout d'être réalisateur, au contraire, qui met le...
Qui est cynique même sur ça.
Ouais, qui met le spectateur dans une vision vraiment très voyeuriste, et qui essaie de nous faire comprendre pourquoi on aime la violence. Et c'est l'histoire en fait de deux ados qui prennent en otage deux personnes dans leur maison de campagne. Et c'est un film horrible, visuellement.
Ouais, plein
d'égards. C'est une expérience très compliquée, mais très fascinante.
Et très intéressante, parce que c'est les premiers... Enfin, c'est... Les premières expériences aussi de briser un peu le quatrième mur.
Bon, c'est pas les premières expériences. Non,
mais dans des films comme ça, autant cyniques, je trouve que c'est... Non, mais plus, moi, dans le sentiment où, en fait... C'est un précédé qui a toujours existé, parce que de toute façon, c'est un procédé théâtral et de toute façon, ça existe. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un format assez choquant de l'utilisation...
Dans un film de ce genre,
Et ce que je veux dire, c'est que c'est fait par le prisme de la télévision, qui n'est pas forcément un prisme qui a déjà été utilisé, et on pourra en parler pour notamment Truman Show. Mais en fait, c'est plus un prisme, je trouve, qui est intéressant dans Funny Game, c'est qu'on se moque aussi de la société de consommation et de toutes ces choses-là. C'est plus dans ça que je voulais parler.
Justement, société de consommation, The Truman Show, c'est un film dont tu voulais nous parler.
C'est une très bonne transition, je n'ai pas du tout commandité. Le Truman Show, qui sort donc cette même année, est un film qui raconte l'histoire de Truman Burbank. Burbank. Qui est né dans un studio où il est filmé 24 heures sur 24. Et sans le savoir, il est la star de son show éponyme, le Truman Show. Donc c'est une télé-réalité, une sorte de télé-réalité peut-être plutôt scénarisée, comme on peut en découvrir maintenant des télé-réalités.
Ce qu'ils disent au début, c'est que tout est scénarisé autour de lui, mais tout est vrai dans ce que lui fait, parce qu'il ne sait pas que c'est scénarisé autour de lui. Ouais.
Et c'est un film qui est sorti en France le 12 octobre 1998, donc votre chère Adeline n'avait même pas un an. Et pourtant, c'est un film qui, pour moi, est très familier. C'est un film qui repasse très souvent, et qui pour moi représente vraiment la comfort zone de ces films-là, c'est-à-dire que c'est un film qui, malgré son discours qui peut être assez violent psychologiquement et assez, qui a même pour moi créé un genre,
oui,
vraiment, qui crée le genre de l'idée d'être la propre star de sa vie.
Ou d'être enfermé dans une vie qui serait fausse. Est-ce que t'as pas eu, toi, cette... Je me souviens aussi l'avoir vu quand j'étais assez petit, voilà, en âge quand même de le voir, mais... et je m'étais dit, mais si finalement tout autour de moi n'était qu'une émission de télévision, tu vois.
C'est ça, c'est que je trouve que c'est un film qui est très comique, parce que le personnage principal est quand même l'acteur comique par excellence, Jim Carrey, et qui pour autant est un film très très triste, très dystopique. On peut vraiment considérer que c'est une dystopie, et en même temps ça a influencé à mes yeux beaucoup de choses et beaucoup de présence dans le cinéma, et voilà, je trouve que c'est un film qui est réalisé par un réalisateur qui s'appelle Peter Weir, et
qui est australien,
qui a fait Picnic à Hanging Rock, qui est c'est plus une fable mystérieuse sur des jeunes filles qui ont disparu lors d'un pique-nique, si je me souviens bien, il y a très longtemps, et qui a fait des films très différents, et là c'est vraiment le film qui l'a propulsé, vraiment, c'est un film qui est très connu. Alors je sais pas quel essor il a dans le monde, mais je trouve qu'en termes français, c'est vraiment un film que je qualifierais de film de Noël, même si c'est pas vraiment un film de Noël, mais c'est un film qui passe de façon récurrente.
Ah, parce que tu le dis, c'est un peu, ça te met dans une comfort zone, en fait, lui-même est dans cette sphère donc, qui définit tout ce qui est filmé autour de lui. Et nous-mêmes, j'ai l'impression qu'on se met dans ce genre de petit cocon, en fait, quand on regarde le film. Et moi, la scène qui me marque le plus, c'est vraiment vers la fin, quand il arrive face à ce mur-là de nuages et qu'il le brise.
Ça a été repris, d'ailleurs, pour une des affiches
Et c'est au moment où il monte les escaliers ensuite. Et qui, pour moi, est vraiment une scène, et à la fin, d'ailleurs, un plan vraiment magnifique. Et en effet, ouais, je pense que c'est beaucoup pour ça. Ça te met dans cette sorte de cocon que lui-même, il a. Et en effet, il y a des idées scénaristiques qui sont très bonnes. Et puis la mise en scène, du coup, est d'autant plus facile à faire qu'il suffit de faire rejouer plein de scènes autour de lui. Lui qui, à un moment, commence à essayer de trouver un petit peu les bugs, un petit peu les failles. C'est toujours très efficace, en fait. Donc c'est pour ça, à mon avis, que ça passe souvent à la fin de l'année. Ça... Même si c'est profondément triste, voilà, il y a quelque chose un petit peu de... comique de situation.
Il y a un twist qui est super. En plus, il y a un twist, des twists à un moment, mais et en plus, il est amené de manière très graduelle. Donc même nous, en fait, on apprend un peu la supercherie en même temps que lui, en fait. Et je trouve que là-dessus, il est super bien.
On l'a voit dès le début, en fait. La scène d'introduction, c'est le réalisateur de l'émission qui parle.
Ouais, mais en fait, le réalisateur qui parle, mais qui ne dit pas...
Ah si, si. Et il explique le thème de l'émission. Par contre, on découvre les indices au fur et à mesure, comme lui, en fait.
Je sais plus, mais pour moi, il y a vraiment l'idée d'un truc vraiment graduel, et après, on comprend vraiment. Oui, oui.
Ce qui est intéressant, c'est que tout le film se passe sur une période très courte et qui est amené par des flashbacks. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est une émission anniversaire. Je crois que c'est l'anniversaire de Truman. Imaginons, c'est 35 ans. Plus trop d'idées, mais je pense que c'est à peu près 35 ans, parce que c'est un homme qui va avoir la quarantaine, on pourrait dire. Et en fait, c'est une émission rappel. Le début, c'est vraiment, on rappelle un peu tout l'univers de l'émission en faisant des flashbacks.
Depuis sa naissance, filmée, elle aussi.
Exactement, les premiers Noël.
Les premiers pas.
En fait, ce qui est très intéressant, c'est que aussi le film s'intéresse à la production télévisée. Puisqu'on a tout aussi les échecs de la production. Et ça, c'est très intéressant. La scène où, par exemple, il y a un rétroprojecteur qui tombe. Et c'est les premiers indices où il se rend compte que potentiellement, il va y avoir... Enfin, le monde ne tourne pas rond. Le fait, par exemple, et ça, je persiste, je trouve que c'est une des meilleures idées du film, que les gens fassent des pubs.
Les placements de produits.
Les placements de produits,
c'est... Elle lui dit, est-ce que tu veux un café de telle marque en faisant un regard caméra.
Et ce qui est très rigolo, on va faire peut-être un fil rouge sur Glass Onion, mais finalement, dans des films plus récents, on va avoir Bah, beaucoup de placements de produits, ouais. Parfois des placements de produits un peu mal faits. Ouais. Et en fait, je trouve que c'est dans ces années-là quelque chose de super intéressant.
Bah,
c'est
vrai. Les docu-soap en plus, c'est financé grâce à ça. Hein. Ouais. C'était bien pire à l'époque. Enfin, ouais, ça critique
et
aussi.
Et même, on a pu parler de Blade Runner qui a été complètement sponsorisé par Coca.
Non.
Enfin, pas complètement, mais avec.
Coca a juste payé son décor.
Ah, oui.
Oui, mais c'était fou. Enfin, qu'il y a énormément de marques dans. Et en fait, là, c'est assez rigolo parce qu'il y a un peu un truc assez fun sur ça et
ouais c'est vrai que ça anticipe pas mal
et je trouve
certains
que
films de maintenant
voilà les histoires sont assez enfin finalement il y a beaucoup d'histoires dans le film et notamment quelque chose que j'aime beaucoup qui est quand on a des personnages annexes qui n'ont rien à voir avec l'histoire qui font des mini scénettes et en fait par exemple bah du coup on va filmer tous les spectateurs en fait du Truman Show donc il va y avoir des policiers dans un bar. Et en fait, on va avoir vraiment tous ces trucs-là.
Les téléspectateurs.
Ouais, les téléspectateurs. Ouais, ouais. Et le fait qu'on montre vraiment qu'eux aussi sont attachés au personnage. Mais en même temps, et c'est là où il y a un peu un twist, et je suis d'accord avec toi, c'est qu'au fil du film, les spectateurs veulent que Truman s'échappe.
Oui.
Et en fait, ça devient un ressort de communication. Et enfin, en tout cas, un ressort scénaristique dans la télé-réalité. Et c'est ça qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, c'est quand la télé-réalité devient tellement prenante, et c'est ce qu'on voit aussi maintenant, aujourd'hui, avec la télé-réalité, tout simplement.
Ou même plus encore à l'époque, parce que justement, quand il est sorti, c'est le tout début des
Big Brother.
Des vraies télé-réalités, etc. Love Story en France, c'est 2001, mais oui, c'était déjà avant, Big Brother, c'est Pays-Bas. Je sais plus c'est quelle année, mais ça devait être à peu près par là. Donc, ouais, non, c'est clairement un film.
Mais évidemment, c'est avant Instagram et tout ça, où tous notre propre Truman Show, on met en scène notre propre film.
Oui, mais en fait, c'est ça, c'est que c'est un film qui, chaque année, je pense, peut te faire des questions. Enfin, de toute façon, je pense que c'est psychanalytique. Tout le monde pense qu'on est propre personnage principal.
Ouais. Puis même cette fin où justement, bah, du coup, le show s'arrête. Et donc après, je ne sais plus combien d'années du coup d'existence, et les gens sont juste en mode bon, du coup on zappe.
Ouais.
Ça finit comme ça.
C'est vraiment fou et c'est ça en fait, c'est fou, c'est qu'en fait il y a.
On n'a pas parlé non plus de son acteur principal. Tu disais c'est un film à la fois triste et joyeux, et quoi de mieux pour définir Jim Carrey qui.
Mais c'est ça.
C'est son film peut-être le plus connu, un de ses plus beaux films avec Man on the Moon.
Oui, c'est ça, avec Man on the Moon, avec Eternal Sunshine of My Spotless Mind, qui va être un peu dans le même registre, on va dire, plus tristesse que... Enfin, en tout cas, un film qui est moins comique, qui est moins dans le ressort comique.
Et puisque la vie est un jeu, bah, je vous propose simplement de jouer, parce qu'on est déjà à la moitié de l'émission, les amis, mine de rien.
Nous allons jouer à un jeu.
Not a chance.
On va arrêter avec les jeux. La dernière fois qu'on a joué au Trivial Pursuit, on a failli se battre.
One, two, three.
Je vous propose un autre jeu plutôt. Vous connaissez un jeu auquel je gagne toujours.
Si vous ne pouvez pas perdre, ce n'est pas un jeu.
Je peux perdre, mais je gagne toujours.
Et donc, qu'est-ce que le grand réalisateur, le grand esprit derrière cette émission va nous proposer?
C'est trop. Alors, j'en profite pour faire un petit intermède miam. C'est 99 Big Brother.
Ah, ok. 99 aux Pays-Bas.
Aux Pays-Bas. 2000 sur CBS aux États-Unis.
C'est fou. Le grand miam est d'une efficacité.
J'adore. Mais n'hésitez pas à me miamer de temps en temps si vous avez besoin d'informations. On va reprendre un jeu que vous avez adoré, qui était le juste film. Je vais vous donner des noms de films basés sur. Alors attendez, je vais me reprendre. la musique n'est pas partie. Je vais vous donner des noms de films. Vous allez devoir me dire s'ils sont sortis en 98, enfin surtout s'ils sont apparus dans le box-office français du 98. Mais pour corser un peu le tout, je vous ai aussi mis entre des films de 98, des films qui apparaissent dans le box-office de 99 et de 97. Comme ça, on ne sait jamais trop, parce qu'il y en a qui sortent.
Je cache mes films.
Donc par exemple, Titanic était au box-office français en 98.
Voilà. Tout à fait. C'est alors que.
Alors qu'il est sorti en 97 aux États-Unis.
Et c'est le parfait exemple des pièges.
Voilà.
On va commencer tout de suite, comme notre habitude, chacun notre tour. Louis, tu commences avec Tarzan.
C'est n'importe quoi. Ah non, c'est Louis.
C'est Louis, je ne dirais pas 98.
Ce n'est pas 98, effectivement. Tu gagnes un point.
Et c'est quelle année?
C'est 99. Ah. Et est-ce que tu aurais le nom d'un des réalisateurs?
Non, du tout.
Non,
c'est avec Brendan Fraisier.
Voilà. C'est pas un réel.
Non, non, c'était l'acteur. Mais je sais pas qui est le réel.
Non, mais on parlait du Disney ou du.
Je crois qu'on parle du Disney.
Ah non, mince. Non,
je pensais que c'est le Disney.
Non, je n'ai pas.
C'est Chris Buck et Kevin Lima. Lima, tout à fait.
Deux fidèles auditeurs.
Qui nous adorent encore. Énormément. Johanna, Austin Powers 2.
Oh là là.
Est-ce que c'est 98? Est-ce que c'est pas 98?
Alors c'est vrai que j'ai vu ce film une bonne dizaine de fois, je rigole, j'ai jamais vu, donc je dirais pas 98.
C'est totalement 99, est-ce que tu aurais le réal?
Pas du tout. Quelqu'un Steven Spielberg?
Pas du tout.
Ça sonne
le running gag.
C'est Jay Roach, fidèle auditeur. Okay. Nicolas, Demain ne meurt jamais.
Tomorrow never dies.
Tout à fait.
Donc un film de James Bond avec Pierce Brosnan qui, je dirais, est sorti pas en 98 mais en 97.
Il est sorti en 97. Est-ce que c'est bonus du coup?
Oh non, 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 ça va là.
Non, parce qu'un point non, pour quand on fait un accent anglais.
Martin Campbell, réalisateur.
C'est Roger Spottiswoode.
Ouais, ouais,
voilà,
presque. Adeline, L'Arme fatale 4.
Eh ben, du coup, j'ai l'impression que mon cher Louis a vendu la mèche. Ah.
Donc dans mon introduction,
donc
effectivement.
Je dirais que c'est effectivement l'année 90.
C'est effectivement l'année 90.
Mais ça veut dire que tu as écouté. Donc,
c'est, mais finalement,
c'est un point bien mérité.
Mais je pense que Nicolas a peut-être le réalisateur, pas moi.
C'est Richard Donner.
C'est tout à fait Richard Donner.
Voilà.
Ouais.
Mais je lui donnerai pas un point pour autant.
Je ne donnerai pas non plus. Sinon, c'est triste. Mais vous êtes tous à un point. Donc finalement, égalité pour l'instant. Deuxième round, Louis le Chacal.
Est-ce que c'est Chacal, ça ne.
C'est le remake d'un film français.
Ah non, mais ça ne me dit rien pour 98, donc non.
Et c'était 98 pourtant.
D'accord, ok.
Est-ce que tu aurais éventuellement le réal?
Non, pas plus.
Personne?
Non.
Michael Keaton Jones.
Oh.
Johanna, Le monde ne suffit pas.
The world is not enough.
Et moins un pour Nicolas.
Donne ton point à Johanna.
Je dirais une nouvelle fois, ce n'est pas 98.
C'est effectivement 99.
James Bond encore une fois?
Très très fort.
Une riche année.
Et je n'ai pas non plus le réal.
Personne de là.
Martin Campbell.
Michael Apted.
Toujours pas.
Que Nicolas, Haute Voltige.
C'est pas 98.
C'est pas 98, c'est 99 effectivement.
Tu l'as dit avec une assurance, ouais. Puis plus du tout d'assurance.
Est-ce que tu as le réal?
Haute Voltige, c'est quoi? C'est un film d'action, je dirais que c'est un peu.
C'est avec Tarantino, non?
Non.
Travolta, pardon.
Ah, possiblement. Non, je ne sais pas le réalisateur.
C'est John Amiel.
Quelque chose. Avec Travolta,
il y a des abeilles à miel. Là, c'est un jeu à miel. Adeline, Complot. Est-ce que c'est 90 ou c'est pas 98?
Je dirais que c'est 98.
Et bah, c'est faux.
Et bah, voilà.
Mais est-ce que tu as le réel?
Je sais même pas quel est ce film, pour être honnête.
C'est le même réel que L'Arme fatale 4. Hein.
Ah.
Est-ce que tu as suivi?
pas cette fois, peut-être.
Elle n'a pas suivi.
Malheureusement, ouais.
C'était Richard Donner, encore une fois.
Trop rapide.
Louis, troisième round. La vérité, si je mens.
Ah.
Barbara.
Non, ah, pas 98.
Mmh. Pas 98.
Non, avec une grande certitude.
97. C'est 97, effectivement. Mmh. Et tu sais qui l'a réalisé?
Non. Alors, je devrais savoir, mais là, je ne l'ai pas.
Quel honte. Qui connaît Coco, pourtant? Chouchou, pardon, j'ai confondu Coco et Chouchou.
Chouchou.
Non, mais c'est pas tout à fait les mêmes personnes.
Non.
Ah, d'accord.
C'est le style de film. On va couper cette blague.
Allez, à Johanna.
C'était Thomas Gilou. Okay.
Johanna... C'est pourtant très mignon. J'espère qu'il nous écoute. Gilou.
Fidèle auditeur. Johanna, Anastasia.
Oh. Alors, attends.
Est-ce que c'est 98? Ouais,
c'est pas 98. Je connais l'année exacte. Je peux avoir un point.
J'hésite. Bah, je pense que ce n'est pas 90, soit 97, soit 99.
Eh bien,
97, non?
C'était 98.
Oh en merde!
Bah, merci Louis pour ton ballon.
Oh non!
Est-ce que tu aurais éventuellement les réels?
Ah non, j'ai pas du tout.
Et Don Bluth, c'est Gary Goldman.
Ok.
C'est un des réalisateurs dont on n'a jamais
entendu parler. Ouais. C'est super, ouais. Ça fait très plaisir. Nicolas, menteur.
Liar.
Je ne t'accuse pas,
attends,
mais.
Menteur.
Oui.
Je crois que j'ai. C'est ouais. Robert Zemeckis?
C'est pas du tout.
Non. Et c'est Peter Jackson, non, je ne sais pas.
Absolument pas.
Aucune idée, je dirais oui, 98.
C'est 97.
Ah bah,
c'est donc raté.
Je confonds avec.
C'est une question?
Oui,
j'en sais rien. J'ai vraiment juste la liste.
On est vraiment mauvais.
La qualité, de cette émission diminue de saison en saison.
C'est terrible.
On était tanné, ça va.
Plus simple, Eyes Wide Shut pour Adeline. Est-ce que c'est 98? Est-ce que c'est pas 98?
J'ai peur sur le box-office.
Ouais, c'est ça qui nous piège aussi.
Mais oui. Je dirais
moi
que...
Moi, je sais. En France.
Tu sais, en France. Ouais. Bon, pour faire simple, on va directement faire Kubrick.
C'est Kubrick.
Comme ça, on sécurise.
Ça, c'est bon.
Ensuite, je dirais que...
La pression.
C'est sorti en 97 en France.
C'est sorti, non, c'est mars 99.
C'est 99, tout
bon,
à fait.
Bon, bah dans tous les cas, c'était faux.
Mais donc... dans, tous les cas, dans tous les cas, c'était pas 98, donc tu as bon.
T'as perdu, donc t'as gagné.
Bravo.
T'as deux points.
C'est vraiment... deux points. Et d'ailleurs, Adeline, tu passes en tête.
Et le dernier tour.
C'est le dernier tour. Tout est possible.
On rigole,
tout est réalisable, comme disait Grégoire.
Oh, les refs. J'adore.
Louis, Batman et Robin.
Batman et Robin ?
Oui.
Alors, l'année de sortie, non. Après, box office, encore une fois, c'est ça qui nous piège, quoi. Moi, je dirais non pour...
Tu dirais que c'est sorti donc pas en 98 ?
Non, oui, non.
Pas en 98, non. C'est tout à fait vrai, c'est sorti en 97.
Okay. Et je n'ai pas le réalisateur.
C'est Joel Schumacher.
Alors, c'est Schumacher ou Schumacher ? Parce que dans les interviews en anglais, ils disent Schumacher.
Ah ouais ?
Ça me perturbe.
Et dans Taxi, ils disent Schumacher.
Non, mais ouais. Schumacher.
Finalement, ça vient d'un série à beaucoup plus raison que nous. Ok, ça fait donc un seul point. Oui, un seul point, c'est ça. Johanna, le dîner de con. Est-ce que c'est 98 ou est-ce que ce n'est pas 98?
Attends. Est-ce que j'ai que je me remets. Si, c'est 98.
C'est 98, c'est ton dernier, ton ultime bafouille.
Oui.
C'est tout à fait 98, effectivement. Oui. Est-ce que tu as le réal?
Non, malheureusement non.
Personne.
Colin Serrault.
Francis Weber.
Ah bah oui.
Eh oui, bien sûr.
Colin Serrault.
Allez, Nicolas, je vais pouvoir briller sur celui-ci. Will Hunting.
Ah. Oui, c'est 98.
C'est 98. Est-ce que tu as le réal?
Et le Real,
qui a un nom vraiment à coucher dehors.
Le Real, attendez.
Désolé pour le Real, hein. Qui l'a visiteur.
Non, le Real, je l'ai en plus.
Je peux pas t'aider, là je...
Non, je sais que c'est...
Attends.
Si.
Mais attends, moi je... Si, c'est celui qui a fait...
Tu veux vraiment aider Nicolas à gagner là?
Bah attends,
parce
on
que
est
là,
d'accord.
Qui gagne Adeline, hein, pour
Adeline, tu
non,
gagnes.
Non mais si. Est-ce que c'est un nom en trois parties?
Tout à fait.
Bon bah c'est bon, je l'ai.
Attends.
Oh, je peux.
Vas-y.
C'est Gus Van Sant.
C'est Gus Van Sant.
C'est Gus Van Sant. Ah oui, non, j'aurais pas.
Ok. Donc,
et bah Adeline, tu peux peut-être gagner sur celle-ci parce que là, c'est de l'égalité pour l'instant.
Wow.
Mais c'est égalité parfaite entre tout le monde. Ah, Adeline, non. Tout le monde est à 3 points. La Cité des Anges.
Oh, c'est avec Meg Ryan et Nicolas Cage.
Ça, c'est bien.
Et c'est totalement sorti en 98. C'est et c'est une adaptation des Ailes du Désir.
C'est totalement sorti en 98. Voilà. Est-ce que tu as le réal pour mettre deux points dans la tête de tout le monde?
J'ai pas le réal, mais je suis un peu deg parce que voilà. Mais je peux te dire que c'est une adaptation des Ailes du Désir. C'est exactement la même histoire.
Ouais, ouais.
Et c'est pas avec Nicolas Cage. Si, c'est peut-être avec Nicolas Cage.
Tu parles du Wim Wenders?
Ouais.
Ah ouais, c'est une adaptation du Wim Wenders. Okay. Voilà.
Bah, c'est une très belle victoire, pardon.
Et bien, je suis ravi d'annoncer la victoire d'Aline. C'est pas la première victoire.
C'est ma première victoire sur incroyable. Meg Ryan. Ça me fait plaisir.
En deux ans d'émission, c'est super.
Ah bah, bravo.
Merci beaucoup.
Merci Victor.
Et bien, merci à vous tous de vouloir jouer à mes jeux. Merci.
Allez, on passe à nos films suivants avant de passer faire un petit détour vers la France. On va peut-être continuer vite fait sur les États-Unis. Comme vous l'avez dit, 1998, 7 janvier 98. Sortie de Titanic de James Cameron, qui ressort d'ailleurs, qui est actuellement en salle, alors que nous parlons en 3D et en 4K.
Oh
là là.
Eh oui. Et donc, l'occasion de voir ce film. Alors, c'est un film que je n'avais jamais vu.
C'est vrai ?
Non, je n'avais vu que des bouts à la télé quand j'étais petit. Je n'avais jamais vu en entier. Et il y a quelques jours, je l'ai revu pour préparer cette émission et je me suis régalé. Mm. Je trouve que c'est un film vraiment génial. Comme on disait le mois dernier avec Avatar 2, James Cameron, vraiment, sait raconter des histoires à merveille. Il n'a rien prouvé là-dessus. Je sais que Louis, tu as découvert Terminator 2 il y a peu.
Oui.
Et que tu as adoré.
Effectivement.
Et pour le coup, Titanic, c'est un film qui est beaucoup moqué et un peu conspué, parce qu'on dit que c'est parce une histoire d'eau de rose, une histoire d'amour.
Et en final, c'est pas ça le plus important.
Non, et puis l'histoire d'amour est sympa, déjà.
Oui, oui.
L'histoire d'amour est sympa.
Vas-y, dis-le, Nico.
J'ose le dire. Et c'est aussi un film sur la lutte des classes, vraiment du début à la fin. Ça commence dans la salle des machines, on voit les différences sociales entre les gens, même dans l'histoire d'amour elle-même. C'est un film qui ne parle que de ça, en soi. Même dans la partie film catastrophe, qui est donc la deuxième moitié du film, ça parle que sur la différence de chance entre les plus pauvres et les plus riches.
Et ça reprend totalement ce qui s'est réellement passé. Oui. Hein, les gens qui ont réussi à s'en sortir sont en effet les personnes qui étaient dans les premières classes, etc. Et toutes les personnes qui sont malheureusement décédées, c'était les classes plus populaires. Quoi.
J'en profite pour raconter une petite anecdote sur Titanic.
Grand-mère.
Bah alors, figurez-vous qu'en mai dernier, j'étais en Irlande et j'étais à Cove, qui est le dernier endroit où le Titanic a accosté en Europe avant de faire la grande traversée. wow, travesti, traversée. Et en fait, quand tu rentres dans le musée du Titanic, il t'offre un billet qui est un véritable billet d'une personne qui est montée dans le Titanic et tu apprends à la fin de ta visite dans le musée si cette personne est morte ou pas dans
mais
le Titanic.
C'est horrible.
C'est bien glauque.
Ce qui est vraiment l'expérience la plus glauque de tous les temps. Et en fait, pendant la visite, il demande... Est-ce que quelqu'un dans la salle est Marie Adams ? Et en fait, tu dis oui ou non, et il explique toute l'histoire de cette personne. Et donc moi, j'étais une veuve qui partait avec sa fille pour le Titanic et qui était en troisième classe. Donc en fait, on a un peu la classe dans laquelle tu es sur ton billet. Et ils te disent si potentiellement tu vas vivre ou pas selon ta classe, en mode est-ce que tu as des chances ou pas. Et les histoires sont terribles.
Et toi, es-tu vivante ou morte, Marie Adams ?
Eh bien, je suis restée vivante avec ma fille et nous avons vécu en Louisiane pendant plusieurs années. Nous avons été photographiées comme les survivantes du Titanic alors que nous étions en troisième place. Mais, mais les femmes avaient beaucoup plus de chances de gagner, on va dire. Et il y avait une histoire terrible auquel j'y pense souvent, finie après l'anecdote. Mais en fait, c'était une fratrie de trois enfants qui étaient orphelins et qui rejoignaient leurs frères aux États-Unis. Et en fait, les deux enfants... ont été considérés assez jeunes pour faire partie des femmes et enfants d'abord, mais le plus âgé avait 13 ans et donc était considéré comme un homme adulte, et donc du coup n'a pas pu rejoindre le canoë. Et en fait, il a sauté, il a rejoint un canoë, et en fait, vu que les canoës étaient trop lourds et allaient couler, en fait, les gardes tapaient les gens pour ne pas les faire rentrer. Il s'est trouvé, hasard du destin, que en fait c'était le canoë de ses frères et sœurs qui l'ont remonté et qui ont jeté le mec par-dessus bord. Et en fait, ces trois enfants sont restés en vie.
Bah, merci pour cette petite histoire
qui finit bien.
Qui finit très bien. On avait un peu les chocottes pendant l'explication.
C'était digne de Ombelatte. Boulard raconte. Ouais. Et pour en venir au film, c'est vraiment très bien. Ça marche toujours aussi bien. Toutes ces scènes où... Enfin, c'est un film de catastrophe très lent parce que pendant une heure et demie, le navire coule. Ouais. On sait qu'il va couler et on voit comment il se déplace d'un étage à l'autre. Comme tout bon film d'action, c'est la scénographie est parfaite.
La musique est incroyable.
Les gens qui jouent en direct, les musiciens, c'est vraiment un film. On comprend pourquoi ça a eu autant de succès parce que ça peut parler à toutes les personnes. C'est un public familial et c'est toujours en France le film qui a fait le plus d'entrées. Donc, revoyez Titanic. Au cinéma, je pense que ça vaut le coup. Je n'ai pas pu voir au cinéma.
C'est vrai que moi, j'aimerais bien le revoir au cinéma. Hein, parce que quand je l'avais vu dans mon canapé, la musique et tout, je trouve. Enfin, c'est un film, dès que je le vois, je suis super stressée. Quoi. Enfin, oui. Je connais la fin, je sais qu'on sait tous que le bateau va couler, etc. Mais à chaque fois, ça nous prend au trip. Quoi.
Et James Cameron n'a rien fait de mieux depuis.
petite balle perdue sur les navires.
On va parler d'un cinéaste. Qui n'en était à l'époque à son troisième film, c'est Quentin Tarantino, qui en le 1er avril 1998 en France sort Jackie Brown. C'est un film, je ne sais pas si vous l'avez vu autour de la table, si tout le monde l'a vu.
Oui.
Tout le monde l'a vu. Donc c'est bien ce qu'on peut en discuter. Parce que c'est un film que j'avais moins aimé la première fois que je l'ai vu. Je l'avais vu une première fois, je vous trouvais ça très bien, mais je l'avais vu vraiment sur un tout petit écran d'ordinateur il y a plus de 10 ans. J'étais pas totalement rentré dans le film. Et je l'ai revu avant même de préparer l'émission ce Noël à Marseille. Dédicace au cinéma Les Variétés, n'est-ce pas ?
Qui nous écoute.
Je l'ai revu, donc je suis allé un peu par curiosité revoir ce film qui dure 2h30. J'avais jamais voulu le revoir chez moi, en fait. Et je me suis régalé. Je trouve que c'est un des meilleurs films de son auteur. Déjà, il y a une BO de folie, mais comme d'habitude avec Tarantino, là, il y a du Bobby Womack, du Bill Withers, du Randy Crawford. On a un casting qui est au diapason. Samuel L. Jackson est... Toujours dans ce rôle qu'il a commencé à avoir depuis Pulp Fiction, où il joue toujours le même rôle. Mais là, c'est le début, donc on n'est pas encore lassé, en fait. Il cherche encore à donner du peps à son personnage.
Puis cette fois, il est en duo avec De Niro.
Et cette fois, il est en duo avec Robert De Niro, qui est d'un rôle... Louis qui est un rôle incroyable. C'est Robert De Niro débonnaire, qui a la flemme de tout, mais qui a un retournement de situation à la fin qui change tout. Et surtout, c'est Pam Grier, qui était donc une actrice... symbole absolu de l'époque de la Blaxploitation, donc ces films d'exploitation noir américain. Et Tarantino va chercher Pam Grier pour la faire jouer dans ce film.
C'est ça, faut dire qu'après elle a été délaissée, oubliée. Ouais.
Et c'est un film en fait à sa gloire, où c'est l'histoire d'une hôtesse de l'air qui ramène des sacs de billets pour un dealer depuis le Mexique, je crois, et qui va se faire choper et qui va en fait mener son bateau quoi pour flouer tout le monde.
C'est ça.
Pour réussir à la fois à se libérer de l'emprise du dealer, récupérer un demi-million de dollars.
De la police également, libérer.
Se libérer de tous les soupçons qui passent sur elle.
Elle veut tout.
Et c'est un film vraiment qui dure 2h30, mais qui a en fait une simplicité, une fluidité dans la narration, qui fait que tout s'écoule très bien. Tarantino, il n'est pas encore dans la surenchère d'effets, de machins, de trucs qui explosent un peu partout, qui brillent. En fait, on sent qu'il ne veut pas non plus briller, mais il fait tellement bien son... son métier, tout simplement, que je trouve que c'est fascinant.
Très peu de sang,
ouais.
C'est à noter.
Johanna, toi, c'est un film, est-ce que tu avais vu avant, est-ce que tu as découvert pour l'émission?
Je l'avais pas vu, donc je l'ai découvert pour l'émission, et j'ai trouvé ça un peu long par moment, mais globalement, j'ai bien aimé ce film, et surtout, j'ai bien aimé le personnage, justement, de Jacqueline Brown, et elle le joue à merveille, et en fait, j'étais très aussi... Enfin, je trouve le plus intéressant, c'est un peu le twist qu'il y a, où le rôle de Jacqueline, donc on s'attend, c'est une quinca, hôtesse de l'air, ouais. Qui est vraiment dans la pire, je crois qu'ils le disent, la pire compagnie aérienne, elle est seule, etc. Et en fait, c'est limite un peu elle, la méchante dans l'histoire.
Et elle fait ça pour s'en sortir.
Ouais, mais en fait, méchante dans le sens où
elle va manipuler tout le monde. Quoi, oui.
Au début, le méchant, on va dire, c'est donc Samuel L. Jackson qui joue Ordell. Et en fait, on a plus peur de lui. Et en fait, elle va complètement arriver à retourner la situation et se le mettre dans la poche. Enfin, arriver à. Enfin, il y a notamment la scène où Ordell vient chez elle et on comprend qu'il veut in fine la tuer. Et en fait, elle, c'est elle qui a un flingue. Exactement, il y a complètement un retournement de situation. Et après, bah, pour moi, c'est un peu elle, pas la méchante. En fait, c'est le personnage charismatique qui tient vraiment tout le monde en haleine dans ce film. Alors qu'au début, on ne s'attend pas que ce soit elle. Et ça, je trouve que c'est très bien fait et qu'elle joue ce rôle à merveille.
Louis, toi, c'est un film que tu as découvert ?
Ouais, que j'ai adoré, que j'ai vu il n'y a pas si longtemps. Et comme tu le dis, ouais, qui intègre peut-être mon top 3 des films de Tarantino, même si c'est toujours très difficile de faire un top des Tarantino, puisqu'il n'a pas fait vraiment de mauvais films, selon moi. Et bah, pour finir, ce que j'aime bien dans ce qu'il y a de... Je vois Adeline qui... J'ai dit pour moi. Hein. Pour moi, il n'y a pas de flop. Ce que j'aime bien, c'est à la fin, justement, puisqu'elle essaye de mener son bateau et que chacun a ses intérêts, qu'elle essaye, elle, de prendre tous les intérêts. On a la même scène finale vue de différents points de vue et ça nous rappelle encore et encore ce qu'on a vu donc, dans The Last Duel ou dans chez Kurosawa, chez Rashomon, etc. Et c'est très bien fait par Tarantino.
Et toi Adeline, c'est un film que tu as aimé?
C'est un film en fait que j'ai vu je pense une bonne dizaine de fois.
Ah oui,
ouais.
Ah ouais.
En fait pour moi c'est vraiment un film Arte. Dès qu'il passait sur Arte, je le regardais sans avoir aucun amour pour ce film non plus. En fait c'est très bizarre, je trouve que c'est un film qui est long. Et dont je ne me souviens jamais de l'intrigue. C'est très bizarre.
Elle est très basique, l'intrigue, en plus.
Et en fait,
elle est bien ficelée, quand même.
Ouais, mais elle est très bien faite, mais elle est très basique.
Sur le papier, ça tient en une phrase. Quoi.
C'est ça, et vu qu'elle est très simple, je ne me rappelle jamais de vraiment des tenants et des aboutissements. Et c'est pour ça que je l'ai vu autant de fois. Parce qu'en fait, c'est un film qui...
À chaque fois, tu oubliais que tu l'avais vu. Tu dis,
non, mais je sais. En fait, je sais que je l'ai vu.
De Niro, il a une moustache.
Non, mais genre, vraiment, je sais que je l'ai vu. Mais typiquement, De Niro, la scène que j'ai mis du coup pour le mash-up... où du coup il se dispute avec la petite amie de Samuel Jackson. Enfin, il y a vraiment un truc où je me souvenais même plus de cette. Enfin, en fait, c'est vraiment trop bizarre. C'est un film que j'apprécie et que j'oublie que j'aime bien, sans pour autant adorer. En mode, c'est pas dans mon top Tarantino. C'était pour ça que je faisais cette
date
un peu.
Pardon.
Parce qu'en fait, pour moi, c'est vraiment le film qui n'existe pas. Oh, bon. Dans mon, enfin, en mode.
Non, mais je comprends. J'avais un peu ce rapport justement à celui que j'avais vu. Je me rappelais de quelques scènes, mais je n'arrivais pas à m'en rappeler exactement de ce dont ça parlait.
Et typiquement, quand tu l'as proposé, tu vois, genre moi j'étais là en mode, ben voilà, je peux te dire des trucs sur le fait que la première scène, c'est exactement la même scène que dans le Lauréat. En fait, c'est une scène de retour d'escalator.
Ouais.
C'est vraiment moment pour moment la même scène.
Ah oui, le travelling est génial, ouais.
Et en fait, genre voilà, c'est que des trucs comme ça, des fun facts que je sais sur ce film, mais sans pourtant pouvoir en dire énormément.
En tout cas, on espère que ça vous a donné envie de le revoir. Alors, on a pu parler de plein d'autres films de 1998. J'aurais adoré parler de Boogie Nights de Paul Thomas Anderson, qui, je pense, est son meilleur film, et peut-être de loin. On a pu parler du Soldat Ryan de Spielberg, qui est vraiment un film, peut-être le film qui symbolise le mieux 98, et dans tout le rapport esthétique que ça a donné ensuite dans les années 2000. Kirikou, plein d'anecdotes on aurait pu dire sur Kirikou, Snake Eyes, Mulan.
Ouais, ça a été une grande année d'animation. On a aussi les Mille et Une Pattes, Le Prince d'Égypte, un très très bon film d'animation. C'est vrai que 98 niveau animation, on aurait pu faire un petit.
J'aurais aimé parler de The Big Lebowski juste pour mettre Egypt King, j'avais même prévu, mais Victor n'aura pas le temps de le lancer parce que voilà quoi, ça on finira par une autre musique. Mais toi, Louis, tu vas nous parler de ton film de 1998.
Mon film de 98.
Qui, je pense, se passe à Marseille.
À Marseille, parce que là, on retourne en France en 98. Belle année pour la France, 98. Mais plutôt au niveau du foot que du cinéma, je trouve. Parce que, bon, si le cinéma français a réussi à préserver un petit peu sa portion d'entrée, c'est surtout grâce à quelques comédies, je trouve. Le Dîner de cons, Les Visiteurs 2, et donc Taxi, dont j'aimerais vous parler. On aurait aussi pu noter, puisqu'on fait des petits road names, qu'il y a aussi les vieux de la nouvelle vague qui sont toujours là en 98. On a des films signés Eric Rohmer en Conte d'automne, Jacques Rivette, Secret Défense, et puis on a même un Jean-Luc Godard avec Histoire de cinéma. Mais laissez-moi vous parler d'un autre grand film de 98. Oui, c'est Taxi de Gérard Pires. Et moi, je l'ai vu pendant l'heure du goûter. Un taxi pendant l'heure du goûter. J'ai été de retour 10 ans en arrière et c'est un film. Est-ce que c'est parce que j'ai un amour pour Marseille que je l'aime ou est-ce qu'il est objectivement bien?
Je savais pas qu'il est Marseille, je pensais que t'étais plus Dijon.
Non, je préfère vous, voilà, vous le dire. Voilà, j'aime Marseille. J'aimerais beaucoup y vivre.
Ouais.
Non, est-ce que c'est pour ça que j'aime autant ce film ou est-ce qu'il a vraiment des qualités objectives? Parce que moi, je vais vous dire, j'aime des scènes. En fait, je trouve qu'il y a beaucoup de scènes cultes, notamment la scène d'ouverture, la scène d'intro, pour moi, avec le scooter qui roule dans Marseille sur Miss Irlou, donc la musique qu'on retrouve dans Pulp Fiction, d'ailleurs,
ouais.
Tarantino. La scène de la transformation de la voiture, là, du taxi avec les ailerons, les trucs, des scènes qui sont cultes pour moi, sur une BO. Donc avec Miss Irlou, composée sinon en grande partie par Ayam et la Funky Family, donc très marseillais aussi, tout ça. Et puis je trouve un vrai humour, pour moi, dans cette comédie, un vrai humour qui est assez décapant. Je pense à notamment deux scènes, je me suis noté un petit peu les répliques. Il y en a un qui dit, donc qui arrive dans le taxi et tout, il dit « Le taxi va beaucoup trop vite, c'est histoire de taxi. Hein. Je voudrais pas que vous perdiez votre permis à cause de moi. » Et Samina Seri lui répond « Ah non, mais vous inquiétez pas, moi je l'ai pas le permis. » Voilà. Ou ils attendent un mec qui se planque, etc. toute la nuit avec le commissaire et donc Samina Seri, oui, le chauffeur de taxi. Et à un moment, ils se renseignent et ils apprennent que ce mec est insomniaque. Et il dit « Non mais attends, là, on est vraiment comme deux cons à attendre qu'un insomniaque aille se coucher. » Enfin, moi, je trouve que c'est super bien écrit, c'est super fin dans l'humour. Et en même temps, des scènes qui sont beaucoup moins fines, mais que du coup, j'adore. Voilà. Et puis, dans ce qu'il y a de beaucoup moins fin, justement, le personnage du commissaire Gilbert aussi, que j'adore, avec son alerte générale. C'est un film, pour moi, qui passe très vite. En plus, une heure et demie, il se regarde très bien.
Avec Marion Cotillard, d'ailleurs.
Avec Marion Cotillard.
Qui n'a pas grand intérêt dans ce film.
Non, à part jouer
le féminin dans ce film.
Oui, voilà, c'est vraiment globalement juste histoire de mettre.
Par contre, rôle masculin, moi, je trouve que Samina Seri joue extrêmement bien.
Frédéric Fental.
Alors, un peu moins. Un peu moins. Mais voilà, je serais curieux de savoir si c'est vraiment parce que j'aime Marseille, parce que tout le film se passe à Marseille, que je l'aime autant, ou est-ce que vous aussi vous trouvez des qualités à ce film?
Alors juste, je ne l'ai pas revu depuis longtemps, c'est un film que j'ai vu plusieurs fois, parce que évidemment, c'était un peu le film d'action de Marseille, donc tout le monde à Marseille a vu Les Taxis, qu'il y en a 4, on le rappelle.
5.
Oui, c'est vrai qu'il y en a 5. Enfin, là où on parle, on est en 98, donc il n'y en a qu'un, mais c'est vrai qu'il y a 5 taxis.
On a confié le dernier à Franck Gastambide.
Le 5 a été tourné pas loin de là où habite mon père. Ah, et d'où habitait ma mère d'ailleurs, donc vraiment j'ai assisté à plein de scènes de tournage de Taxi 5 et je l'ai vu et c'est une honte ce film, c'est horrible.
J'ai pas vu.
Autant les suites de Taxi sont pas non plus incroyables.
Ah, le 4 est pour moi un des meilleurs.
Avec Djibril Cissé et Stallone.
Non, Stallone, oui, non, Stallone dans le 3. Ouais.
Okay. Non, je trouve que c'est pas des très très grands films, mais je serais curieux de les revoir parce que ça a une certaine aura, une certaine gouaille, je dirais.
Ouais, c'est tout à fait ça.
Vous qui n'êtes pas marseillaise, quel est votre ressenti sur le taxi?
Bah alors rapidement, moi je n'avais jamais vu Taxi avant. Et je me suis vraiment posé la question pendant très longtemps dans ma vie de pourquoi je n'avais jamais vu Taxi. C'est pas non plus un film, ça doit repasser à la télé et tout.
C'est un film très TF1. Oui.
Et en fait, moi genre, j'ai vraiment une grande culture de ces comédies-là. On a fait quand même Chouchou, enfin genre pourquoi Chouchou et pas Taxi? Quelle question.
Oui.
Et en fait, je me suis
rendu compte... Pose, Adeline, pourquoi Chouchou et pas
justement,
Taxi?
C'est parce que c'est un film qui n'est pas si rigolo. C'est un film très sérieux. Non mais dans le sens...
je quitte le studio.
Non, mais en fait, c'est un film qui est drôle, mais très sérieux en fait.
Ah oui.
J'ai trouvé que le scénario se tenait vraiment bien.
En fait, c'est dans
peut-être
les...
pour ça que je l'ai pas vu.
C'est dans l'écriture des dialogues, dans l'écriture des...
Et voilà, c'est vraiment un bon film. Genre, vraiment, j'ai passé un très bon moment.
Je reviens dans le studio.
C'était vraiment chouette. Genre, mais que finalement, les blagues... Genre, tu parles des punchlines, tu vois, mais moi, je trouve pas que ça décolle... Enfin, en mode, c'est pas non plus, tu vois, genre... Alors, les... Genre, vous vous prenez pour Schumacher, genre... Ouais. Et genre, il dit, vous roulez en Mercedes, je savais pas qu'il faisait des voitures. Tous ces trucs, tu vois, c'est vraiment... un peu, ça tombe en l'air, mais finalement, l'histoire, elle marche bien.
Il faut dire peut-être le défaut de Taxi, c'est son propre héritage, parce que c'est une production Luc Besson, écrite par Luc Besson, et il va tellement user la formule, dans la... donc c'est avec son studio EuropaCorp, il va tellement tirer la corde avec les studios de Taxi, les c'est transporteurs.
Ça souffre de ça, t'as raison.
Tous ces films qui vont avoir toujours le même angle, la même écriture, les mêmes rebondissements, et cette haine que doit avoir Luc Besson pour les voitures, parce qu'il y a vraiment 200 voitures qui s'explosent par film, des voitures de policiers qui se retournent, etc.
On aurait dit les Blues Brothers, genre vraiment, c'était...
Ouais, c'est ça, il y a toi.
Donc je pense que oui, le plus gros défaut de Taxi, c'est son héritage.
Ouais, je suis complètement d'accord avec toi.
Non, moi aussi, je l'avais déjà vu, il me semble, il y a longtemps, je ne m'en rappelais pas tellement. Et j'ai passé un super moment. Je trouve ça drôle, c'est pas hilarant, mais personnellement, je trouvais que j'avais lu des critiques qui disaient que c'était quand même vachement lourd, et j'ai pas trouvé ça si lourd que ça au final. Et puis de toute façon, c'est assumé, c'est le principe du film en fait. Moi personnellement, le personnage du commissaire, j'ai adoré, il me faisait mourir de rire. Donc globalement, c'est très entraînant. Après, je trouvais typiquement par rapport à Marion Cotillard, je suis pas une grande fan de Marion Cotillard, mais je trouvais que vraiment dans ce film, elle ne servait strictement à rien et c'est plus
son rôle est très réducteur.
Voilà, c'est ça. Mais il est réducteur déjà et surtout c'est que des petites scénettes où elle est là et en fait on aurait tellement pu le couper au montage parce que ça servait pas à grand chose. Donc c'est un peu dommage. Je trouve que le film est un peu parasité par des sous-histoires. À mon avis, on aurait tout simplement pu l'enlever et tout simplement assumer en fait l'empreinte originale du film. Tu vois. Voilà.
Et moi, j'aimerais juste faire un gros coucou, une fois n'est pas coutume, à mamie, puisque quand même, Frédéric Diefenthal, il n'est pas vraiment connu pour ses rôles au cinéma, il est plus connu pour ses rôles en téléfilm. Et c'est vraiment un plaisir de regarder un téléfilm avec Frédéric Diefenthal, qu'on embrasse, parce que je sais... de sources sûres qu'il écoute cette émission, donc voilà, bisous à Frédéric.
En parlant de dédicace, on m'a dédicacé aussi cette émission à mes collègues de chez TF1 qui me demandent depuis des mois de leur dédicacer, donc ils se reconnaîtront, mais ce sont de très bons collègues, merci de nous écouter, tel Frédéric Diefenthal et de nombreux réalisateurs de Blockbuster.
On ne sait pas vraiment s'ils peuvent nous écouter parce qu'on est en 1998, alors
oui, ils ne sont pas nés, voilà. La plupart ne sont pas nés, ouais. On vous remercie en tout cas de nous avoir écoutés jusqu'ici. On rappelle 98 grande année, car notre réal adoré est enfin né ce jour-là, en mai 98 il me semble.
Tout à fait. Le 13 mai
98.
La création de Radio Campus Paris, c'est pour
et
ça
surtout,
qu'on fait
cette émission.
C'était lui qui mettait la première pierre.
C'est vrai que c'était le but de cette émission, c'était un hommage à Radio Campus Paris qui continue de nous diffuser tout simplement.
Et de nous régaler.
Bien sympa.
Et de nous régaler. Merci Radio Campus Paris et toute l'équipe qui est toujours très sympa avec nous. Est-ce que vous avez, vous, des attentes pour l'année 1999, l'année 2000
On espère qu'on va passer à l'an 2000, le calendrier va passer.
Ah, le bug de l'an 2000, moi j'ai très peur.
Ouais,
je sais pas quel team vous êtes, mais...
Je sais pas du tout, et après j'espère que dans 4 ans on va gagner la Coupe du Monde encore, faire un doublé.
Ah ouais, mais il y a déjà l'Euro en 2000.
Ah bon, voilà.
Je vois bien Trezeguet marquer un but en finale. Retenez ça, pariez peut-être pas dessus, mais je le pose là.
Moi, je pense que le format pellicule, vraiment, c'est encore un avenir incroyable.
Attention, le numérique n'a aucun avenir.
Non, les
trucs. Vous voulez faire quoi? Filmer avec des quoi? Des smartphones? Des téléphones? Non,
mais... Des quoi? Des
smart?
Ouais.
Des téléphones?
Ouais, bon, j'ai entendu ça.
Et l'année prochaine, en tout cas, c'est la sortie de Star Wars épisode 1, La Menace Fantôme. Et je suis sûr que ça va être vraiment excellent.
Un banger, je pense.
Je pense que ça va être excellent.
Non, j'attends rien.
J'attends rien.
Et c'est de qui?
Steven Spielberg, non?
Steven Spielberg, oui, tout à fait.
Vous l'aurez entendu en premier ici, ça va faire un flop.
Okay. Ah bah. Ouais, merci. Bon, de toute façon, apparemment, ils vont faire des préquels 1, 2, 3, et après, ils vont s'arrêter là, je pense, Star Wars.
En même temps, ça peut être pas trop bien.
Je pense que 7, 8, 9, ça pourrait être quand même insane. Ça pourrait être une super suite de films.
Ah, pas tout de suite, tu vois.
Pas tout de suite.
Je pense qu'ils peuvent.
Pas avant, genre les années 2020.
Ça me paraît si loin.
Peut-être que les voitures voleront.
Ok, ça, on aura des voitures volantes et plus aucun souci.
En tout cas, la planète ira bien, en tout cas.
C'est ça.
Ah, ça, source sûre, oui.
Eh bien, quand vous écoutez en 98 ou dans le futur, disons en 2023, on vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'à là. On se dit rendez-vous donc dans 25 ans et un mois, donc le 26 mars 2023, pour une émission sur Hairspray, film de John Waters,
qui, aïe, aïe, aïe.
qui on l'espère, plaira à tout le monde autour de la table.
Déjà, c'est une comédie musicale.
Oupsie.
Vous pouvez toujours nous retrouver sur Instagram, La Séance du Dimanche, et sur toutes les plateformes de podcast pour nous écouter quand vous voulez, où vous voulez. À bientôt, et bon an 99.
À très vite.